C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, se baigner dans le nectar sacré, c'est ce que font tous les 3 ans des dizaines de millions d'Indiens dans le Gange, à l'occasion du pèlerinage hindou de la Kumbh Mela. Cette année, jusqu'à début mars, ils sont près de 150 millions à converger vers la ville d'Allahabad, dans l'Uttar Pradesh, au nord-est du pays. Une ville éphémère à base de tentes est construite pour l'occasion sur une surface de 45 km². C'est tout simplement le plus grand rassemblement humain du monde. L'objectif est de se baigner dans le Gange, ce fleuve sacré qui lave des péchés et qui est surtout, dans la religion hindoue, la matrice d'où provient la vie. Mais le Gange, comme de nombreux fleuves du monde, est malade de la pollution et des infrastructures que les hommes lui font subir.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Le Sénégal, le Niger, le Parana, le Mékong, la liste est longue. Les grands fleuves du monde ont été façonnés au fil du temps par les besoins des hommes, comme l'irrigation, la navigation ou l'hydroélectricité. Ces écosystèmes fragiles sont confrontés aujourd'hui aux pollutions et aux changements climatiques. Bonjour Michel Mébec.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Vous avez travaillé pendant des décennies sur l'état des fleuves dans le monde. Alors globalement, quelle est la situation de ces fleuves qui transportent jusqu'aux océans, il faut le rappeler, ce qu'ils glanent finalement au gré des terres qu'ils traversent.
Elle est contrastée. On a d'une part des fleuves qui ont été très contaminés et qui s'améliorent en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord. D'autre part, des fleuves qui se contaminent de plus en plus, notamment en Asie du Sud-Est, ou qui sont de plus en plus impactés par l'homme. Et puis, on a des fleuves dont on ne sait pas trop ce qui se passe, parce qu'ils sont à peine étudiés et à peine suivis pour la qualité des eaux.
Bonjour Pierre Chevalier.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous depuis le Gers, c'est dans le sud-ouest de la France. Vous êtes directeur de recherche émérite à l'IRD, au laboratoire d'hydrosciences de Montpellier. Et vous avez plus particulièrement travaillé sur les grands fleuves d'Asie. Alors nous allons aller au bord du Gange dans quelques temps. Les grands fleuves d'Asie, c'est quand même extrêmement important parce que c'est la source de la vie pour des millions de personnes.
Oui, on dit souvent d'ailleurs que l'Himalaya est le château d'eau de l'Asie et que les fleuves qui descendent de l'Himalaya ont un bassin versant qui alimente plus d'un milliard d'humains, ce qui est quand même tout à fait impressionnant.
Et alors quels sont ces principaux fleuves ?
Alors, les plus grands fleuves sont les fleuves qui descendent vers le sud. C'est essentiellement le trio Indus, Gange et Brahmapoutre. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de fleuves qui descendent vers la Chine à partir du plateau tibétain. Et puis aussi des fleuves qui vont vers le Vietnam et le Cambodge, comme le Mékong.
Voilà, ils sont présentés. On fera un état des lieux de ces fleuves tout à l'heure. Mais je vous propose tout d'abord d'aller sur les rives du Gange, ce fleuve mythique donc, qui assure la subsistance de près de 600 millions de personnes. C'est l'un des cours d'eau les plus vénérés du monde. Il s'étend sur plus de 2000 km depuis l'Himalaya jusqu'au golfe du Bengale. Il irrigue au passage les plaines fertiles et agricoles de tout le nord de l'Inde. Ce rôle est essentiel, on le disait, à la vie de la moitié de la population indienne et cela lui a conféré un statut divin. Les hindous considèrent que ces eaux sont les plus pures du monde et pour eux, ce fleuve est une déesse. Alors, le gouvernement indien, dirigé par les nationalistes hindous, a promis de nettoyer ce fleuve mythique avant la fin de son mandat qui se termine en mai et force est de constater que la tâche est loin d'être achevée. Notre correspondant en Inde, Sébastien Farcy, a parcouru le Gange du nord au sud depuis les tanneries de Kanpur jusqu'aux rives sacrées de Bénarès pour constater les progrès réalisés ou les obstacles qui demeurent pour nettoyer le Gange. Et il nous emmène d'abord à Allahabad en pleine ferveur hindoue.
Les femmes se tiennent par la main, les femmes assez âgées qui se tiennent par la main et qui plongent jusqu'au cou avec beaucoup de plaisir. Ah, y en a qui mettent la tête sous l'eau aussi. Allez. On va demander à ces gens d'où ils viennent de loin en général.
On vient de New Delhi.
C'est un sentiment fantastique.
Ça a l'air plutôt froid.
Oui, mais je me sens tellement bien. Nous sommes ici au Sangam, au croisement sacré des fleuves. C'est un endroit d'une grande pureté pour nous, les hindous. Et pendant la Kumbh Mela, c'est un moment très propice pour ce bain. Donc ça me ravit d'être ici, ça m'offre une grande paix intérieure. C'est la première fois que je viens ici et je m'en souviendrai pendant longtemps. Ce pèlerinage, c'est un peu comme celui de la Mecque pour les musulmans. C'est très important.
Je suis en extase en ce moment. Regardez cet hélicoptère. Il envoie des roses sur les baigneurs, c'est magnifique. Cela m'offre un bonheur profond. C'est la première fois que je viens et les mots me manquent. C'est un moment unique dans ma vie. Ici, vous avez des riches, des pauvres, des gens de haute ou de basse caste. Mais quand nous nous déshabillons pour nous baigner dans notre mer le Gange, il n'y a plus de différence entre nous.
Les dévots se baignent donc allègrement dans ce fleuve sacré. Certains y font leurs ablutions, ils s'immergent trois fois en direction du soleil, comme le veut la tradition. Mais le Gange a beau être mythique, il est également de plus en plus pollué. Ceci à cause des rejets des eaux usées des villes ou des industries situées le long de ses rives. Et je voulais savoir ce qu'en pensent ces pèlerins de cette pollution. Alors au cœur de cette Kumbh Mela, je rencontre Ramkrishna Dwivedi. Lui connaît bien le Gange car il est né sur ses rives, dans cette ville même d'Allahabad. Il est de la caste des Brahmanes, une haute caste traditionnellement de prêtres, et il adore donc religieusement ce fleuve. Mais il est également ingénieur, ce qui permet en quelque sorte d'équilibrer cette foi.
Small children get very joyful here. You see.
Some people come and drink it. Les gens qui viennent et qui la boivent, le Gange. Vous pensez que c'est bon?
Vous savez, il y a une bonne bactérie dans l'eau du Gange qui tue toutes les mauvaises bactéries. Et cela lui permet de se régénérer. L'eau du Gange n'est donc jamais dénaturée. C'est pour cela que nous pouvons dire que c'est l'eau la plus pure sur Terre.
Si vous mettez beaucoup de produits chimiques ou même les eaux usées, ça ne va pas rester si pur.
Si, car même quand les eaux usées se jettent dans le Gange, elles sont nettoyées. Et c'est ainsi pour toute eau impure. Alors oui, il y aura peut-être quelques sédiments et saletés, mais quoi qu'il arrive, le Gange restera pur.
Ça sera sain à boire.
Oui, il faudra peut-être filtrer les sédiments et les particules, mais vous pouvez la boire. Il n'y a pas de problème. C'est pour cela que l'eau du Gange est si importante. Tout hindou emporte de l'eau du Gange chez lui. Et dès qu'il y a une importante cérémonie religieuse, il utilise cette eau. Sans l'eau du Gange, il n'y a plus d'hindouisme.
Et vous la buvez ?
Oui, je peux. Je vais en boire. Regardez, pas de problème.
Il y a des études qui montrent que l'eau est très polluée, elle n'est pas saine à boire.
En fait, il y a deux manières de voir les choses. Si vous prenez le Gange comme un simple fleuve et la comparez avec les autres fleuves, elle semble polluée, oui. Mais si vous la considérez comme sacrée, si vous considérez que le Gange est votre mer, alors non, une mer ne peut jamais être polluée.
Hey, Trevor.
Cette dévotion est donc quelque peu aveugle. Certes, le Gange a des qualités qui peuvent sembler magiques. Il est d'abord extrêmement fertile. Il naît dans les montagnes de l'Himalaya et s'étend sur plus de 2200 km jusqu'à se jeter dans le golfe du Bengale à l'est de l'Inde. Et pendant la mousson, il grandit énormément et draine ainsi sur son passage des plantes et des minerais de cette région. Cela lui offre des propriétés médicinales reconnues et lui permet même, comme le dit Ram, d'éliminer certaines bactéries qui y tombent. Oui, mais ce Gange vénéré peut-il résister ainsi aux assauts des pires pollutions humaines ? Cela est bien plus douteux. Or, en amont d'Allahabad et de Sakumela se trouve la ville de Kanpur, une des métropoles les plus peuplées de l'état de l'Uttar Pradesh et la capitale indienne de la tannerie. Ici, environ 400 usines travaillent le cuir à l'aide de produits chimiques comme le chrome et l'acide sulfurique, et une partie de ces agents toxiques finissent dans le Gange. Nous arrivons donc à Kanpur, où nous retrouvons Rakesh Jaiswal. Il est le fondateur de l'association environnementale EcoFriends et il lutte contre la pollution de ces tanneries depuis environ 30 ans.
C'est plutôt sale, on voit de la mousse sur le dessus, on voit des rejets un peu partout. L'eau est bien sale. Hein. Qu'est-ce qu'on voit là ?
This is another drain which carries trendy wastewater to River Ganga.
Ceci est un des nombreux égouts qui emporte l'eau rejetée par les tanneries vers le Gange. Et cette eau n'est pas traitée. Les tanneries utilisent une centaine de produits chimiques, donc cette eau contient tous ces éléments toxiques et rejoint le Gange sans être nettoyée ou purifiée. Cela endommage beaucoup la faune et la flore du fleuve.
Pourtant, nous sommes venus à une des périodes les moins polluées, car juste avant ce festival de la Kumbh Mela, pendant lequel les dévots se baignent dans le Gange, eh bien le gouvernement a forcé les tanneries à réduire drastiquement leur production pour faire baisser les rejets toxiques. En fait, quasiment toutes les tanneries que nous sommes allés visiter sont fermées et leurs machines sont scellées. Selon les autorités, toutefois, certaines continueraient à opérer car des millions de litres d'effluents pollués continuent à être déversés chaque jour dans les égouts de Kanpur. Les tanneurs, eux, assurent qu'ils respectent les règles et ils refusent d'être tenus pour les seuls responsables de la pollution du Gange. C'est ce que nous dit Kazi Jamal, il est le propriétaire d'une tannerie de Kanpur et l'ancien secrétaire général d'une association de tanneurs.
Toutes les grandes tanneries qui travaillent plus de 50 pots par jour ont installé des usines de retraitement de chrome sur leur site. Et les plus petites doivent l'envoyer à une usine publique de traitement. Mais le problème a commencé vers l'an 2000, quand les autorités de contrôle de la pollution ont autorisé l'ouverture de 227 nouvelles tanneries, en plus des 175 existantes. Or, l'usine de retraitement des eaux usées n'a pas été agrandie à cette époque. Il y a également 28 000 autres industries opérant à Kanpur. Beaucoup font de la galvanisation électrique et pour cela, ils utilisent aussi du chrome. Ils ont ainsi trouvé du chrome dans les eaux usées de zones où il n'y a pas de tannerie, ainsi que du mercure et du plomb. Nous n'utilisons pas ces produits. On accuse les tanneries car ce sont des cibles faciles.
Donc les tanneurs sont censés traiter le chrome sur leur site pour relâcher de l'eau qui est très peu polluée en chrome. Qu'est-ce qui est fait vraiment sur le terrain, monsieur Rakesh Jaiswal ?
Les moyennes et grandes tanneries possèdent bien ces systèmes de retraitement du chrome, mais elles ne les utilisent pas correctement.
Et pourquoi ? Why ?
Simply, they are not running it.
Tout simplement car les propriétaires ne les font pas tourner pour économiser de l'argent. Donc les eaux usées qui sortent de leurs usines et arrivent dans l'usine générale de retraitement des eaux usées contiennent des niveaux de chrome bien supérieurs à la limite de 2 mg par litre. Elles contiennent en général entre 150 et 200 mg de chrome par litre. Et cela affecte le retraitement général des eaux usées.
Quel est l'effet de tant de chrome dans de l'eau de rivière ?
Les usines d'épuration ne peuvent pas retraiter autant de chrome, donc les eaux sont contaminées. Ces eaux sont utilisées pour l'agriculture. Le chrome rentre donc dans la chaîne alimentaire et dans les nappes phréatiques, ainsi que dans le Gange où il affecte toute la faune et la flore du fleuve.
Si on se baigne dans le Gange comme le font beaucoup de gens, qu'est-ce que ça a comme effet ?
It's not monitored how much chromium is present in the Ganga water.
Personne ne mesure la quantité de chrome dans le Gange, ni même la quantité présente dans les eaux usées qui y sont déversées. Donc il est difficile de mesurer les conséquences de cette pollution au chrome sur la vie du Gange et sur les êtres humains. On n'en sait rien.
करके कठिन तपस्या क्यों गंगा को धरती पर लाए गंगा कैसे धोए पाप तुम्हारे उसने पाने को तुम्हें पुकारे गंगा तुम्हें पुकारे गंगा तुम्हें पुकारे
Tous ces risques ne semblent toutefois pas inquiéter la population de Kanpur qui vit autour de ces tanneries. Nous sortons de ce petit quartier industriel composé de ruelles étroites et nous tombons sur une grande avenue à la circulation très chargée. Et à une centaine de mètres de là, eh bien, il y a un pont routier qui enjambe le Gange. En avançant, nous remarquons sous ce pont eh bien, deux personnes qui pêchent des poissons dans le Gange. Assez étrange et potentiellement dangereux quand on connaît eh bien, les rejets qui sont déversés dans ce fleuve à ce niveau. Nous descendons donc pour leur demander ce qu'ils pensent de cette pollution. L'un d'entre eux a déjà 6 poissons dans sa besace.
Oui, nous mangeons ces poissons. C'est du bon poisson. Faut juste le faire bien cuire. L'eau, elle est propre, car elle circule. Moi, j'en bois même. Bien sûr que j'en bois. C'est Madame Le Gange. Son eau est pure.
Le Gange est pourtant le fleuve qui reçoit le plus d'attention en Inde. Des plans spécifiques ont été lancés par les différents gouvernements depuis les années 80 pour le nettoyer. Et le gouvernement actuel, dirigé par les nationalistes hindous, en a même fait l'un de ses principaux chevaux de bataille. En 2014, lors de son élection, le Premier ministre Narendra Modi a assuré que le Gange serait propre d'ici à la fin de son mandat, en 2019. Et il a investi près de 3 milliards d'euros en 5 ans dans ce programme appelé Namami Gange. Son directeur, Rajiv Ranjan Mishra, affirme qu'ils ont adopté une nouvelle méthode pour s'assurer que les investissements seront plus efficaces et durables.
L'une des faiblesses des programmes précédents est le manque de considération pour le fonctionnement et l'entretien des usines de retraitement des eaux usées. Ainsi, dans notre programme Namami Gange, nous avons inclus ces éléments dans le coût du projet. Donc l'opérateur à qui nous l'attribuons sera chargé de construire l'usine, de l'opérer, mais aussi de l'entretenir pendant 15 ans. Nous pensons ainsi que l'opérateur sera plus attentif à la construction, car il devra également prendre soin de l'usine.
Malgré tous ces investissements, le résultat, en fait, est bien pâle. Car l'argent a été dépensé, oui, mais seulement un quart des infrastructures prévues étaient opérationnelles au bout de 4 ans de chantier. Plusieurs raisons à cela. L'inefficacité de la bureaucratie à déployer des chantiers techniques pareils. La corruption aussi. Ainsi que les difficultés à acquérir des terres dans un pays si densément peuplé. Du reste, un autre problème complique le nettoyage du fleuve. Depuis 30 ans, le flot naturel du Gange a baissé de moitié à cause des barrages hydroélectriques et du pompage de son eau pour l'agriculture. Donc si on retire de plus en plus de son eau naturelle et qu'on y rejette les eaux usées, eh bien le Gange se transforme progressivement en un égout à ciel ouvert. Et cela se constate dans une ville bien connue, Bénarès. Dans cette cité religieuse et plurimillénaire, le Gange revêt une importance surnaturelle. Les hindous s'y baignent tous les jours pour se purifier et y jettent les cendres de leurs défunts pour leur éviter d'interminables réincarnations et leur permettre d'atteindre le nirvana. Et malgré ce rôle divin, eh bien le Gange est ici dans un sale état. La ville compte 1 300 000 habitants et moins de la moitié de leurs eaux usées sont retraitées. Et encore, les infrastructures utilisées sont vieilles et ne peuvent enlever les matières fécales de manière convenable. Ce qui fait en fait que l'essentiel des excréments de ses habitants finissent littéralement dans le fleuve. Une association appelée Sankat Mochan Foundation constate cette dégradation du fleuve en réalisant chaque semaine des analyses de ses eaux. Nous embarquons pour l'un de ces prélèvements avec le laborantin en chef Gopal Pandey.
Sur un petit bateau. Une grosse caisse rouge devant nous. C'est quoi ça? Kekare? Ah yeah, oui, donc c'est la machine bien sûr avec tous les instruments pour mesurer la qualité de l'eau. Avec le bateau et on va commencer les prélèvements. Donc qu'est-ce que vous faites là?
Total dissolved solid.
Donc là il fait rentrer une sorte de thermomètre qui calcule la concentration solide dissous.
252. WHO standard is river water healthy when below the 200 mg per liter.
Donc les recommandations pour ce... les solides dissous, c'est moins de 200 par l'OMS et on est à 250.
PH.
Le pH. Pour savoir si l'eau est acide, basique.
8.8.
It's a neutral, non?
Yes.
Okay. Ah, oui. Et donc on remonte vers le laboratoire par ces marches très très raides des quais de Bénarès qui sont connus justement mondialement pour leur beauté. Mais on voit mal sur les photos à quel point elles sont raides. Là, il y a les chaussures. Ok. La concentration en matière fécale, comment on mesure ça?
On prend cette plaque en verre et on y met des nutriments pour matière fécale. On met 1 ml de cette solution sur la plaque et on garde ça à 45 degrés pendant 24 heures. Après, des points bleus apparaissent et on les compte. Ce sont les matières fécales.
Les derniers résultats que vous avez eus alors?
10 janvier. We found Tulsi Ghat here.
Le 10 janvier dernier, au large du Tulsi Ghat, ici même, nous avons mesuré une concentration de 136 000 matières fécales pour 100 ml. Le niveau autorisé pour pouvoir boire l'eau est de 0. Pour se baigner, les standards indiens sont de 500 matières fécales pour 100 ml. Mais nous avons trouvé à certains endroits, comme à Varuna, des concentrations de 42 millions pour 100 ml. C'est un endroit où les égouts se déversent directement dans le Gange. Heureusement, les gens ne se baignent pas à cet endroit, mais en revanche, un peu plus en aval, oui.
Bien sûr, à Tulsi Ghat, c'est là où on est. Les gens, bien sûr, se baignent. Les gens, on voyait, buvaient de l'eau de manière religieuse. Et on est à 136 000 contre 500 qui seraient sains pour se baigner.
Quel est l'effet quand on se baigne dans une telle eau?
Il y a des gens qui se baignent tous les jours et cela affecte leur système immunitaire, surtout au bout de 40 ans. Ceux qui boivent l'eau peuvent avoir des problèmes digestifs, des dysenteries, des diarrhées, le choléra et la typhoïde. La résistance va dépendre bien sûr du système immunitaire de chacun.
Ça fait 28 ans qu'il fait ça.
À l'époque, on constatait les mêmes problèmes. Mais il y a encore plus d'eau usée qui se jette dans le Gange aujourd'hui.
Il dit bien sûr, le gouvernement de M. Modi a promis de nettoyer le Gange, mais après 4 ans, on ne voit pas beaucoup de changements. Il y a juste les gouvernements qui changent, pas vraiment la qualité du Gange.
Reportage de Sébastien Farcy réalisé par François Porcheron. Pierre Chevalier, je rappelle que vous êtes en ligne avec nous depuis le Gers, dans le sud-ouest de la France, et que vous êtes directeur de recherche émérite à l'IRD, au laboratoire d'hydrosciences de Montpellier. Comment réagissez-vous à ce reportage ?
Je suis un peu à la fois surpris et pas très étonné. On sait bien que l'eau, de manière générale, et les grands fleuves en particulier, sont des objets extrêmement importants dans les religions du monde, que ce soit les religions chrétiennes, les religions musulmanes ou bien sûr les religions d'Orient comme le bouddhisme et l'hindouisme. Ce qui est important, c'est que aussi c'est l'ensemble de ces fleuves, comme vous l'avez précisé, c'est aussi la source principale de la vie dans ces régions qui sont très peuplées, parce que c'est à partir de ces fleuves que s'est développée l'agriculture dans ces régions, et avec les techniques modernes de l'irrigation. Et puis aussi, c'est aujourd'hui une part importante de l'énergie de ces régions provient de ces fleuves.
Alors Michel Mébec, je rappelle que vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Comment est-ce que vous réagissez à ce reportage de votre côté ?
J'ai une réaction contrastée, parce que je mets en regard le Gange et sa situation actuelle avec ce qui était la situation de la Seine il n'y a pas encore si longtemps. Et je voudrais rappeler que nous avons mis plus d'un siècle à dépolluer la Seine, de environ 1870 à 1990. Ça nous a coûté énormément d'efforts et nous n'avons été efficaces que dans les dernières années, c'est-à-dire à partir de 1964. Et là, on pense que les Indiens vont pouvoir dépolluer un fleuve qui est pollué par 600 millions de personnes, c'est-à-dire 60 fois plus de personnes que dans la Seine, avec beaucoup moins d'argent que nous, et dans un temps record de 4 ans, alors qu'il nous a fallu 40 ans pour y parvenir, après la loi sur l'eau de 1964. Donc pour eux, c'est une mission impossible, on peut dire. Il faudrait qu'ils génèrent 10 ou 50 fois plus de moyens attribués à cette dépollution.
Oui, donc on voit bien que le défi est immense, d'autant plus, Pierre Chevalier, que comme on l'entend dans le reportage, le Gange reçoit de moins en moins d'eau. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous parliez des barrages hydroélectriques tout à l'heure ? Est-ce que c'est un frein ?
Alors le Gange, comme d'ailleurs ces deux grands fleuves voisins, l'Indus et le Brahmapoutre, est d'une part utilisé essentiellement dans sa partie montagneuse pour produire de l'hydroélectricité à partir de grands barrages qui ont soit des vocations à production d'hydroélectricité, soit souvent des vocations multiples. C'est qu'en même temps, on profite de ces barrages pour contrôler l'entrée d'eau dans tout un réseau de canaux qui parcourent dans tous les sens la grande plaine qui se trouve autour du Gange et de l'Indus, et un peu du Brahmapoutre, mais c'est surtout le Gange et l'Indus, et qui va alimenter des quantités de champs et d'installations agricoles. Alors, C'est surtout l'irrigation qui consomme et qui va emprunter une partie de cette eau pour alimenter les rivières. L'hydroélectricité stocke l'eau dans les barrages et la relâche avec une perte qui n'est pas très très importante. Donc l'irrigation consomme énormément d'eau. Les travaux actuels, et en particulier les travaux tout récents qui ont été publiés fin de l'année 2018, début de l'année 2019, donnent des chiffres d'environ 50% de l'eau du Gange qui est consommée par l'irrigation, et c'est beaucoup plus pour l'Indus. C'est des quantités encore plus importantes pour l'Indus.
Et est-ce que le Gange est impacté par la fonte des glaciers de l'Hindou Kouch et de l'Himalaya? Parce que selon l'ICIMOT, qui est une organisation intergouvernementale établie à Katmandou au Népal, les deux tiers de ces glaciers pourraient fondre d'ici à la fin du siècle si la planète reste sur la même trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre.
Alors je dirais oui et non. Je dirais oui dans le sens où une part importante de, en tout cas pour le Gange, de l'eau qui coule en saison sèche provient de la fonte de ces glaciers et de cette neige. Mais au total, la quantité d'eau issue de ce qu'on appelle la cryosphère, c'est-à-dire les glaciers et la fonte de la neige, pour un bassin comme le Gange, pris à son embouchure à la mer, est relativement faible. Les auteurs s'accordent, alors il y a différents résultats, mais les auteurs s'accordent pour dire qu'il y a en gros que 10% de l'eau du Gange qui arrive à la mer, qui provient de la neige et des glaciers. C'est très différent pour l'Indus, où c'est près de 60% de l'eau de l'Indus qui provient de la neige et des glaciers. Alors on pourra revenir sur les raisons, qui sont essentiellement des raisons à la fois de situation géographique et surtout des raisons climatiques, qui expliquent ces différences entre ces deux fleuves voisins.
Mais en tout cas, c'est quand même inquiétant, non, cette disparition des glaciers, parce que cette région montagneuse, elle s'étend sur 3500 km, elle traverse 8 pays, et c'est vrai que c'est susceptible, si on voit ces glaciers disparaître en grande partie, c'est susceptible de créer de gros problèmes pour les populations.
Oui, mais là aussi, je reviens alors un peu plus dans le détail sur ce que je disais tout à l'heure. Comme vous le disiez très bien, ça fait 3000 km et ça s'oriente du sud-est vers le nord-ouest. Autant dire que le climat n'est pas uniforme sur toute cette zone et que les différentes masses climatiques qui contribuent aux précipitations et donc à l'alimentation en eau, aux ressources en eau de ce bassin, sont pas les mêmes. En particulier, lorsqu'on va vers le sud-est, on est surtout sous l'influence de la mousson qui vient du golfe du Bengale. Et petit à petit, plus on remonte vers le nord-ouest, plus on a une autre influence climatique qui se met en place, qui est l'influence de ce qu'on appelle les flux d'ouest, les westerlies dans le langage des météorologues, qui amènent de l'eau qui vient, eux, de l'ouest. Donc essentiellement, ça vient de l'Atlantique et de la Méditerranée, et avec des précipitations qui interviennent en hiver, donc souvent sous forme de neige lorsqu'on est en haute altitude. Donc c'est vrai que cette diversité fait que les sources d'approvisionnement en eau sont variables. Un autre phénomène est que la diminution des glaciers aujourd'hui se traduit par une augmentation des débits, c'est-à-dire que les glaciers sont en déficit de bilan de masse, c'est-à-dire qu'ils lâchent plus d'eau qu'ils n'en reçoivent, et donc ils vont alimenter les débits. Et puis à partir d'un certain moment, ces glaciers vont avoir une superficie et un volume qui disparaît, ce qui fait que ces débits vont de nouveau diminuer. C'est un phénomène qu'on observe un peu partout dans le monde, et la question c'est de savoir jusqu'à quelle date les débits vont augmenter à cause de la fonte des glaciers et à partir de quelle date ils vont commencer à diminuer.
Et on a des études là-dessus ?
Il y en a très peu, en particulier en Himalaya, parce qu'il y a très peu de glaciers qui sont observés de façon continue dans l'Himalaya depuis longtemps. Les glaciers les plus observés depuis le plus longtemps en Inde sont des glaciers qui ont en particulier été observés par l'IRD dans le nord de l'Inde. Et il y a un glacier qui s'appelle le Chotachigri qui est observé depuis une vingtaine d'années à peu près. Mais donc on n'a pas beaucoup d'antériorité. Et puis maintenant, il y a un certain nombre aussi de glaciers qui sont étudiés au Népal, en particulier dans la zone de l'Everest. Mais on manque d'informations, on manque de données, on manque de recul par rapport à ça en termes d'observation. Et donc les outils qu'on utilise le plus pour établir les résultats publiés en particulier par ICIMOD sont des outils spatiaux à partir d'observations faites en analysant les images des satellites d'observation de la Terre. Mais on a donc une information qui est relativement large à la fois dans l'espace et dans le temps.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
C'est pas du vent sur RFI, nous parlons des fleuves du monde avec Pierre Chevalier, directeur de recherche émérite à l'IRD, et Michel Mébec, qui est donc directeur de recherche émérite au CNRS. Michel Mébec, de nombreux fleuves dans le monde sont malades de l'activité humaine, est-ce qu'on peut dire cela comme ça ?
Ah oui, de très nombreux. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils changent. En Europe, le Rhin, par exemple, ou le Danube, aux États-Unis, le Mississippi, vont mieux globalement, mais il y a d'autres fleuves qui se dégradent, notamment les fleuves chinois. Quant aux fleuves du sud de l'Himalaya, l'Indus et le Gange et le Brahmapoutre, on n'a pas beaucoup de données, même s'il y en a depuis longtemps quand même. Moi, j'ai eu des données du Gange depuis le début des années 80. Il y avait déjà un premier plan d'action sur le Gange à cette époque-là. Et à cette époque-là, le fleuve était extrêmement pollué en ce qui concerne la pollution fécale, c'est-à-dire que les normes de baignade étaient excédées de plusieurs ordres de grandeur, parce que la pollution fécale, ça marche en ordre de grandeur, c'est un peu comme les séismes, ça varie de 10 en 10. Et là, on était à des niveaux de 1 million, 10 millions de bactéries par 100 millilitres.
On l'entendait dans le reportage, ça ne s'est pas arrangé.
Quand j'entends quand même 100 000, oui. C'est mieux que 10 millions. Mmh. C'est 100 000, ça fait 100 fois moins que 10 millions. C'est deux unités en moins. Mais pour se baigner, il faut arriver, je crois, à 500 ou quelque chose comme ça. Donc, on est très loin de la baignade. Et en fait, les eaux du Gange ont exactement le même niveau de pollution que nous avions dans la Seine à l'aval de Paris pendant un siècle. Et les gens s'y sont baignés bien souvent. Et, Ils ont certainement été malades, mais on a ignoré cette contamination.
Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que la quantité d'eau douce à notre disposition sur la planète est quand même infime, finalement, hein, puisque c'est quoi, 97% de l'eau qui est sur la planète est de l'eau salée. Après, il y a 3% d'eau douce, dont 2% qui sont stockés dans les pôles sous forme de glace.
Oui, mais on ne va pas manquer d'eau douce. L'eau douce, elle se recycle tous les ans. Il y a une quantité faramineuse d'eau qui tombe sous forme de pluie sur les continents. Ce n'est pas tellement ça, c'est qu'on la gère pas bien. Et comme Pierre Chevalier l'a dit, l'agriculture est le problème numéro un sur la gestion des eaux continentales avec l'irrigation. Dans l'Indus, je pense que les débits de l'Indus ont été réduits, je pense, d'environ 90%. Et ça depuis déjà au moins 50 ans.
Pierre Chevalier, est-ce que l'on risque de manquer d'eau douce ?
Ça dépend où, je dirais. L'eau douce est très mal répartie à la surface de la planète. Il y a des pays qui en ont beaucoup et où il y a très peu de population. Je pense en particulier à tout le bassin amazonien, où il y a beaucoup d'eau. Je pense également au Canada, qui est un des pays où il y a le plus d'eau au monde et où finalement une grande partie de la population est concentrée sur un petit nombre d'endroits. Si on pense à l'Europe, il peut y avoir des problèmes dans les pays d'Europe du Sud, mais en France en particulier, on peut manquer d'eau à certaines saisons, mais en règle générale, l'eau douce ne manque pas. Par contre, il y a des régions du monde où l'eau douce est un problème. Je pense en particulier au sud et à l'est du bassin méditerranéen et aux pays du Golfe. Et là, les questions sont... Les technologies existent pour faire de l'eau douce, en particulier soit à partir du dessalement d'eau de mer, soit à partir de la réutilisation d'eau usée. Mais ça a un coût, ça a également un certain nombre de conséquences environnementales qu'il faut savoir gérer.
Sachant que nous sommes de plus en plus nombreux, donc quand même la pression sur la ressource, Michel Mébec, va être de plus en plus importante, tant en termes de consommation qu'en termes de pollution.
Oui, et là, c'est surtout les très grandes villes du monde, les villes qui ont plus de 10 millions d'habitants, voire 20 millions. Et si elles sont placées sur des rivières avec des débits faibles, donc c'est le rapport entre la taille de la ville et le débit de la rivière qui joue. Et là, on aura une pénurie d'eau de bonne qualité. Par contre, les grandes villes qui sont à côté d'un fleuve gigantesque comme Kinshasa, sur le Congo ou comme Manaus sur le Rio Negro, n'ont aucun problème. Elles peuvent balancer toutes leurs eaux usées.
Ah, ne dites pas ça à nos auditeurs.
Si, non mais on...
Ça va à la mer quand même.
Oui, les flux vont de pollution peuvent augmenter un tout petit peu, mais l'effet sur les eaux, avec une dilution qui est peut-être 1000 fois supérieure à celle de la Seine à Paris, on ne verra rien. La même chose pour le...
Enfin, on ne verra rien, ça arrive toujours quelque part, la pollution tout de même. Si on jette une bouteille de plastique dans un fleuve, elle arrivera quelque part.
Ça, c'est encore autre
même
chose.
Même si c'est un polluant lié,
mais
par exemple, à l'agriculture.
Il y a des polluants qui sont persistants, qu'on retrouve au bout du tuyau, à l'océan, et des polluants qui se dégradent pendant le trajet du fleuve. Et en tout cas, la pollution bactériologique dont on parlait tout à l'heure, elle diminue en quelques jours.
Les matières fécales notamment.
On n'en a plus trace. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sortes différentes de pollution. Et en fait, quand on dit est-ce que la qualité des eaux va mieux, c'est une question en fait de société. La qualité des eaux, c'est une construction sociale qui dépend de l'évolution des rapports entre les sociétés et leurs eaux. Et dans le reportage, on voit bien que les hindous considèrent le Gange comme leur mère. Mais les Égyptiens anciens considéraient aussi le Nil comme absolument sacré. Et les gens qui se rendent à la grotte de Lourdes, et ben quand ils se baignent dans la piscine d'eau de la source de Lourdes, et je pense que la plupart pensent qu'il y a vraiment un effet particulier de la source de Lourdes, et qui n'est pas différent de l'effet que les hindous prêtent à l'eau du Gange. Donc chacun a un rapport un peu spécial aux eaux et aux rivières. Et c'est vrai qu'il y a une vieille tradition qui est millénaire dans l'humanité, c'est que l'eau, c'est quand même quelque chose de pureté. Donc dans les grandes religions monothéistes, on purifie son âme et son corps avant de prier par de l'eau.
Même si l'eau est polluée. Pierre Chevalier, vous partagez cet avis de Michel Mébec ?
Ah oui, oui, tout à fait. Je suis entièrement sur la même longueur d'onde. Je le disais d'ailleurs tout à l'heure. Mais je rajouterais juste que je pense qu'il faut éviter d'avoir des jugements environnementaux généraux, et en particulier parce que chaque région, chaque situation est différente, et l'accès à l'eau est différent, et la quantité d'eau dont on dispose est différente. C'est évident qu'un robinet dans la bande de Gaza, c'est pas la même chose qu'un robinet à Paris ou qu'on va retrouver dans un village de la zone amazonienne. La relation à l'eau va changer, à la fois en quantité, en qualité et en appréciation à la fois culturelle et cultuelle.
Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et à vous, évidemment, pour votre fidélité. Il y a une vie après l'émission. N'hésitez pas à écouter notre podcast sur l'application Pure Radio ou à réagir sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.